Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans manceaux, avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafon. Cette semaine, 7 nouveautés sur les écrans manceaux, les Olympiades, Albatros, les Éternels, Si Enchanté, My Son, Many Saints of Newark et Compartiment numéro 6. Pour la programmation musicale, j'avais l'embarras du choix. Et j'ai pioché dans plusieurs films, dans Si on chantait, dans Many Saints of Newark, et même dans
Les Olympiades, non ?
Les Olympiades, oui. Voilà, exactement. Allez, on commence par Si on chantait, le titre de Julien Clerc, qui a donné son titre au film dont on parlera dans un petit quart d'heure. Si on chantait, Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
La grande ville mange la ville, la grande ville mange la vie. Marie si belle, Marie Vaisselle, Marie Chandelle, plume d'hirondelle, fleurs sans colline, fleurs en cuisine, Marie sans phare. Lors de brouillard, si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait, la 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 la, si on chantait, la 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 la, si on chantait, la 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 la, Marie divine, si on chantait, si on chantait. Ma peine n'est pas que je t'aime, le temps se lasse, le cœur efface. Parmi les femmes, pourquoi le taire? Celle qui t'en ressemble, je les préfère. Marie divine, sans mousseline, dans ta cuisine, je t'imagine. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait, la 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 la, si on chantait, la 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 la, si on chantait, la 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 la, Marie divine, si on chantait, si on chantait, si on chantait.
Chanter Julien Clerc. Cette chanson, on l'entend à 3 reprises dans le film éponyme. On l'entend 2 fois interprétée par les acteurs du film et sur le générique de fin, on entend cette version de Julien Clerc. Si on chantait, on en parle dans un petit quart d'heure. On commence notre semaine cinématographique avec Les Olympiades. Les Olympiades, c'est un film de Jacques Audiard qui vous est proposé par le Pâté Quinconce et par les cinéastes. Le film dure 1h46. Jacques Audiard, c'est un réalisateur, scénariste né en 52. Premier long métrage en 93, Regarde les hommes tombés avec Jean-Louis Trintignant et Mathieu Kassovitz. 96, Un héros très discret avec Mathieu Kassovitz, Sandrine Kiberlé, Anouk Grimberg. 2001, Sur mes lèvres avec Emmanuel De Vos, Vincent Cassel. 2005, De battre mon cœur s'est arrêté avec Romain Duris et Nils Arestrup. 2009, Un prophète avec Nils Arestrup et Tahar Rahim. 2012, De rouille et d'os avec Marion Cotillard et Mathias Schoenaerts. 2015, Dipan qui avait obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Et 2018, Les Frères Sisters avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly et Jake Gyllenhaal. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de déchets dans la filmographie de Jacques Audiard. Les Olympiades, Paris 13e, quartier des Olympiades. Émilie rencontre Camille, qui est attirée par Nora, qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon, ils sont amis, parfois amants, souvent les deux. Alors, Les Échos, Olivier de Bruyne, tourné dans un somptueux noir et blanc, ce film à la fois ludique et émouvant, sur les sentiments et attirance à géométrie variable, séduit grâce à son invention esthétique, qui sublime aussi bien les situations ordinaires que les nombreuses séquences sensuelles, filmé avec une intensité brûlante. Gilles Kerdreux, dans West France, déclare que le film est beau et émouvant. Adrien Gombeau, dans Positif, Les Olympiades réjouit, enchante, bouleverse. Audiard dresse le tableau d'un quartier parisien d'une époque et d'une génération, mais creuse aussi des thèmes récurrents dans son œuvre. Sophie Joubert, dans L'Humanité, c'est un film fiévreux, impatient, où les corps se désirent et s'embrasent sans préavis, où les paroles tranchantes protègent des sentiments. Le Journal du Dimanche, Barbara Théâtre, on s'amuse de cette valse des sentiments élégante dans son noir et blanc et sa mise en scène fluide qui se veut le reflet d'une nouvelle génération qui exige tout sans rien donner. Jacques Maurice, Télérama, une comédie voluptueuse doublée d'un conte moral à l'esprit nouvelle vague. Le Monde, Clarisse Fabre, le film qui capte l'air du temps, révèle de brillants acteurs. Vous allez me dire, mais il n'y a que des éloges. Mais non, ça se gâte un petit peu quand même. Thierry Chaise, dans Première. On peut totalement passer à côté, mais quand il vous atteint, vous oubliez instantanément ses défauts, ses approximations, ses tics de réalisation un peu appuyés pour ne retenir que ses cœurs et ses corps qui vous manquent dès le mot de fin apparu à l'écran. Car il fit aussi Paris Match, une rom-com, comédie romantique, n'est-ce pas, au noir et blanc rutilant qui se voudrait odyssée du cœur et des corps étirés en longueur, mais peine à s'affranchir d'une photogénie, d'une narration de série télé. Sandra Onana, Libération, si l'on se sent finalement peu concerné par l'issue des idylles des Olympiades, ce qu'elle ressemble bien trop au prétexte d'un projet de mise en scène et de positionnement fabriqué, où les intentions positives affichées comptent finalement plus que les expériences traversées. Et enfin, Jean-Marc Aralan, Les Inoccupables, ultra volontariste dans ce désir d'être en tout synchrone, le film peine à dépasser la simple accumulation des signes de l'époque et l'on glisse sous sa surface comme on sweep sur un écran tactile. Voilà ce que dit la presse à propos de ce film Les Olympiades qu'on peut voir au au Pathé Quinconce et au Cinéaste. Donc, eh bien, ce sont les Olympiades, ce sont les atermoiements amoureux, mais aussi professionnels d'ailleurs, de quatre trentenaires vivant aujourd'hui dans le 13e arrondissement de Paris, aux Olympiades. Ça correspond au quartier chinois de Paris, quartier de haute tour, fréquenté donc par la communauté chinoise. Alors, ces quatre personnages, ils s'y croisent, s'aiment, se quittent, se re-aiment. Alors, dans les quatre personnages, il y a Émilie, qui tombe amoureuse de son nouveau colocataire Camille. Camille, c'est un garçon, hein, parce que Camille, ça peut être
un féminin.
Et ce n'est pas réciproque. Il y a Nora qui monte à Paris pour poursuivre ses études et à la suite d'un grave quiproquo fait la connaissance virtuelle de Amber, travailleuse du sexe, comme on dit aujourd'hui, sur Internet. On appelle ça une cam girl, j'ai appris le terme. Voilà. On n'attendait pas forcément Jacques Audiard dans ce registre, plus léger que ses réalisations précédentes, mais c'est l'occasion pour lui d'évoquer la vie d'aujourd'hui, de cette génération qui revendique de vivre sans attache, mais rêve quand même du grand amour. C'est filmé dans un superbe noir et blanc. Alors, pourquoi ce choix, je ne sais pas trop. En fait, c'est magnifique, c'est vrai. Le film sait rendre attachant ces personnages un peu paumés en les montrant dans leur vie quotidienne, leur travail, les liens familiaux et donc surtout leurs relations amoureuses flottantes, leurs désirs. Voilà. C'est plaisant, c'est jamais lassant. Je trouve que c'est quand même un petit peu anecdotique puisqu'il s'agit essentiellement de parler de sentiments, d'intermittence du cœur. Donc c'est ce que j'appellerais une néo-comédie romantique sur l'air du temps. Voilà. Alors, Pierre ?
Alors là, attention, de l'amour, beaucoup d'amour dans ce film, mais pas que sentimental, de l'amour physique aussi, beaucoup. Une peinture socio-sexuelle des relations amoureuses des 20-30 ans de notre époque, amour souvent tumultueuse, instable, éphémère, mais parfois quand même durable. J'ai adoré la prestation de Lucie Zhang, oui. Ah, le charme asiatique, oui. Ce film du fils de Michel Audiard, Oui, c'est le fils, hein.
Oui, oui.
Mais nous passionne de bout en bout, même si la distribution ne fait place qu'à de jeunes acteurs, presque débutants, mais talentueux. En un mot, j'ai adoré, même si je ne suis pas fan du noir et blanc. Par ailleurs, ce film a été présenté à Cannes et est inspiré de trois nouvelles d'Adrian Thomas, un auteur américain de bande dessinée.
Oui, alors on est étonné quand on voit le palmarès du Festival de Cannes, Palme d'Or à Titane, Grand Prix du Jury à Compartiment numéro 6 et d'autres, et que les Olympiades, par exemple, n'est rien, alors que c'est ni pire ni moins bon que ce que j'ai cité, c'est même meilleur.
Oh, c'est au-dessus quand même de Compartiment. Hein.
Oui, bon. Alors, c'est comme ça. C'est...
Oui.
Albatros, eh bien, cette fois-ci, on va uniquement au Pâté Quinconce. C'est un film de Xavier Beauvois, acteur, réalisateur, scénariste, né en 67. Il a commencé par le court-métrage, 91, premier long-métrage, Nord, avec lui-même, parce qu'il est acteur, je vous l'ai dit, et Bulogier. 95, N'oublie pas que tu vas mourir, avec Roche Dizem, Chiara Mastroianni et lui-même. 2000, Selon Mathieu, avec Benoît Magimel et Nathalie Baye. 2004, Le Petit Lieutenant, excellent film avec Roche Dizem, Jeanne Lesper et Nathalie Baye. 2010, le film qui l'a vraiment fait connaître du grand public, des hommes et des dieux, Lambert Wilson, Michael Lonsdale. 2015, La Rançon de la Gloire, avec Benoît Poulvord et Roche Dizem. 2019, Les Gardiennes, avec Nathalie Baye et Laura Smet. Je vous l'ai dit, il a été acteur. On l'a vu, par exemple, dans Marilyn, dans Chocolat, Un beau soleil intérieur. Voilà, donc son film s'appelle Albatros, la durée 1h55. Un commandant de brigade de la gendarmerie d'Étretat prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille, surnommée Poulette. Il aime son métier, malgré une confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer. La rédaction du Parisien, au final Xavier Beauvois, signe un grand film profond, inspirant et impeccablement interprété. Caroline Vier dans 20 minutes, Jérémy Régnier est éblouissant dans ce film où la pudeur de Xavier Beauvois fait des merveilles. L'Obs, Xavier Le Herpeur, une mise en scène pugnace et un bouleversant épilogue comme une lueur de survie. Le point, Victoria Guerrero, Albatros, est bien plus qu'un drame social. C'est un film sur la solidarité, la culpabilité, la difficulté de se pardonner à soi-même. Adrien Gombeau, Les Échos, film atypique entre chronique, polar et grand récit marin. Albatros dresse un portrait passionné de la Normandie. Pascal Vergerot dans West France parle d'un drame social qui sonne juste. Thierry Chaise en première. Beauvois aime chacun des personnages qu'il filme autant qu'il hait cette misère sociale, toujours là, prête à ruiner la solidarité puissante qu'ils ont tissée pour résister justement à la houle. La dignité est le maître mot de ce film intense. Samuel Douer dans Télérama. Beauvois est certes moins convaincant dans sa deuxième partie qui flirte parfois avec les clichés, mais son audace à bousculer ainsi son récit, à sortir de sa zone de confort pour prendre le large, ne manque pas de panache. Marie-Lou Dupont-Chel, Les Inrecuptibles. Avec Albatros, Xavier Beauvois réalise une subtile étude autour des rapports hommes-femmes qui, dans la deuxième partie, s'essouffle et se mue en un portrait d'homme blessé beaucoup plus conventionnel. Albatros, 1h55, un film que l'on peut voir uniquement au cinéma Pâté. Mais moi, je trouve que c'est un très bon film. Ça sera pour moi, d'ailleurs, même le film de la semaine. Film qui est un portrait d'un sous-officier commandant la gendarmerie d'Étretat. C'est un film clairement divisé en deux parties. Hein. La première, quasi-documentaire, c'est une chronique qui s'attache à suivre au quotidien le travail de cette brigade qui fait davantage dans le social que dans la loi et l'ordre. Hein. On y constate, par exemple, les suicides de ceux qui sont jetés du haut de ces fameuses falaises d'Étretat. On raccompagne les poireaux qu'on connaît bien chez eux. On engueule le jeune qui ne porte pas son casque et qui risque un accident et de mourir comme un de ses camarades 6 mois auparavant. On vient en aide aux agriculteurs du coin en grande difficulté, en essayant d'arrondir les angles avec l'administration. On gère aussi avec rigueur et empathie tous les gendarmes de la brigade. Et après tout le travail effectué avec humanité, eh bien Laurent, eh bien, il rentre chez lui et là, chez lui, il attend sa petite fille, une petite fille adorable, et sa femme, avec qui il a décidé de se marier après 10 ans de vie commune. Bref, cette première partie raconte une vie ordinaire, une vie bien remplie, mais pas non plus trépidante. Voilà. Et puis jusqu'au jour où Laurent tue accidentellement un agriculteur qui menaçait de se suicider. Alors c'est la deuxième partie du film qui commence, une partie plus introspective puisque centrée sur la détresse, évidemment absolue, de ce gendarme dont la vie bascule après avoir donné la mort. Ça parle de son abattement total, de ses remords et puis des conséquences bien entendu sur sa famille et sur sa vie personnelle. Alors, Jérémy Régnier, qui joue ce gendarme, est absolument exceptionnel dans ce rôle. Il est complètement impliqué dans ce personnage, plein d'humanité, investi dans son métier, père de famille, aimant. Il livre une remarquable performance d'acteur sous l'œil de la caméra de Xavier Beauvois, qui réalise un formidable film dramatique, bouleversant, totalement crédible en plus, en prise avec le réel, le plus banal, sans jamais tomber dans l'excès ou le donnage, je ne sais pas si on dit comme ça, le donnage de leçons, enfin le don de leçons, ce n'est pas non plus très très bien, enfin bon. Et bien si ça traîne un petit peu en longueur, c'est vrai, dans la dernière demi-heure, où Laurent a trouvé refuge sur son bateau pour tenter de se reconstruire, et bien cette lenteur, elle est quand même parfaitement justifiée. C'est un film intense à voir. Pierre, tu ne l'as pas vu ?
Non.
Eh bien, il faut que tu ailles le voir. Ah. Voilà, ça s'appelle Albatros et j'invite également nos auditeurs à aller voir Albatros au Pâté Quinconce. Très bon film. Les Éternels. Les Éternels, c'est le gros blockbuster de la semaine. Très attendu par les exploitants. On peut le voir au Pâté Quinconce. On peut le voir au Méga CGR. On peut le voir au Colisée. Je suis à peu près certain qu'au Colisée, il y a même une séance dans un temps en version originale. Les Éternels, c'est un film de Chloé Zhao. Oui, Chloé Zhao, on ne l'attendait pas dans le blockbuster, puisqu'elle avait réalisé en 2021 Nomadland, qui lui avait valu l'Oscar à Hollywood. Nomadland, c'était avec Frances McDormand et David Strathairn. Auparavant, elle avait réalisé en 2018 The Rider, et en 2015, Les chansons que mes frères m'ont apprises. Chloé Zhao, elle est réalisatrice, scénariste, productrice. Elle est née en Chine, mais elle est américaine. Elle est née en 82. Les Éternels, 2h37, et oui, 2h37, depuis l'aube de l'humanité. Les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l'univers, protègent la Terre. Lorsque les déviants, des créatures monstrueuses que l'on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l'humanité. Alors, ça n'est pas une surprise, la revue de presse, elle est très partagée, évidemment. Allez, par exemple, Geoffrey Crétier dans Écran Large, lui, il est pour, il a un collègue qui est contre, qui s'appelle Simon Rio, alors on commence par lui. Geoffrey Crétier, les Éternels ne réinventent pas la formule Marvel, mais en tirent certainement le meilleur à ce stade. Une nouvelle page ambitieuse et excitante, grâce à quelques paris risqués, la dimension cosmique, beaucoup de nouveaux personnages, et des élans émotionnels, avec en plus la sensation d'un univers qui arrête de tourner en rond, en ouvrant véritablement de nouvelles portes. Bon, je ne suis pas allé voir le film, donc je ne sais pas si tout ça, c'est si juste que ça. Mais enfin bon, Le Figaro, grande connaisseuse de l'univers Marvel, Chloé Zhao reprend la trame mystico-religieuse bâtie par Jack Kirby en 1976 et l'adapte aux préoccupations climato-écologiques du troisième millénaire. Son film est visuellement impressionnant et les séquences d'action puissantes. Stéphanie Belpèche dans le Journal du Dimanche. Irriguée par la mélancolie, le récit au rythme lent privilégie le questionnement métaphysique de cette tribu dysfonctionnelle et imparfaite autour de thèmes tels que l'inclusion, l'identité, la solidarité, le sacrifice, le libre arbitre. Ça me fait toujours rire quand je lis ce genre de critiques sur les films Marvel qui auraient un fond exceptionnel. Enfin bon, passons, chacun a le droit de s'exprimer.
Ce n'est pas mon genre de film.
j'ai du mal, moi. Lélo Jimmy Battista dans Libération. Les Éternels réussit à s'imposer à la fois comme le film le plus ambitieux et le plus lisse, le plus intelligent et le plus neuneux de l'univers Marvel. À savoir s'il a aimé ou pas, je ne sais pas. Alors, donc, ceux qui n'ont pas aimé, il y en a quand même. Simon Rio dans Écran Large. Le cinéma faussement aride de Zhao se transforme ici en véritable désert, aussi déprimant lors de ses rares empoignades désaturées que lors de ses interminables dialogues désincarnés. Malgré de cosmiques ambitions, le récit s'évapore, la faute à une absence d'enjeu et de maîtrise qui exsude de chaque scène jusqu'à un final au goût de cendre. Vous voyez, là, c'est pas du tout la même façon de voir le film, hein. L'Obs, Nicolas Chaleur, le film nous balade ainsi de 5000 avant Jésus-Christ à nos jours, et dans des paysages splendides, seule trace de la patte de Zhao avec le vague fond écolo. Pour le reste, c'est du Marvel. Déluge d'effets spéciaux ahurissants, humour inepte pour gamins de 9 ans, gage de parité et d'inclusion. C'est aussi pompeux, ridicule et interminable qu'un mauvais péplum des années 50. Renaud Barognan, le Parisien, rapidement le long métrage tourne la baston permanente avec force effets spéciaux. Chloé Zhao a beau tenter d'insuffler sensibilité et empathie dans le récit, elle est prise au piège du moule Marvel. Bon, alors le régional de l'étape, Gaël Golen dans West France, plus inclusif, moins violent et plus théorique, Les Éternels souffrent cependant de son angélisme et d'un cruel manque de rythme. Je n'ai pas vu Les Éternels, 2h37 est au-dessus de mes forces.
Oula, en plus.
Ah oui, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à voir du fond dans les films Marvel. Voilà.
C'est ça. Bon, excusez-moi. Pas vu non plus.
Je vois beaucoup, beaucoup d'action, beaucoup d'effets spéciaux, des films qui se rappellent les uns des autres, que j'ai oubliés, etc. Enfin, bref, voilà. Les Éternels, c'est le film qu'il faut voir si on est jeune, ado et jeune adulte. On peut le voir au Méga CGR, on peut le voir au Pâté Quinconce, on peut le voir au Colisée. Et il doit bien y avoir quelques séances en VO, peut-être une par jour au Méga. Pas au Méga, certainement pas au Méga, mais au Colisée et peut-être au Pâté Quinconce. Allez, on revient aux bases. Frank Sinatra, Nancy Sinatra, Something Stupid. On entend ce titre dans Many Saints of Newark. Cette fois-ci, c'est sur Radio Alpa, Something Stupid, pris par Sacha Distel en France.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Frank et Nancy Sinatra, sa fille, Something Stupid, et ce titre on l'entend dans Many Saints of Newark. Si on chantait, ben oui, c'est le titre du film dont on va parler maintenant, film de Fabrice Marucca. Fabrice Marucca, c'est un jeune réalisateur français dont c'est le premier long métrage. Il a auparavant réalisé des courts-métrages et notamment La Minute Vieille sur Arte. Vous savez, La Minute Vieille, ce sont ces vieilles dames qui racontent des histoires cochonnes sur Arte.
Oui.
Voilà, Fabrice Marucca. Son film Si on chantait est proposé au Méga CGR, au Pâté Quinconce et peut-être même d'ailleurs au Colisée. Il faudra que je vérifie après. Alors pour ce qui est de la VO pour Les Éternels, oui, il y a VO certains jours au Colisée et au Pâté. Il y a VO tous les jours et même à des heures très très décentes, hein, genre 13h30 ou 15h30. Mmh. Voilà. Si on chantait, Kievrechain, ville industrielle du nord de la France, après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété française, décide d'entraîner ses anciens collègues, Sophie, dont il est secrètement amoureux, José, qui chante comme une casserole, et Jean-Claude, ancien cadre un peu trop fier, dans un projet un peu fou, monter une entreprise de livraison de chansons à domicile, si on chantait. Départ en retraite, anniversaire, à force de débrouille, il commence à avoir de plus en plus de demandes, mais entre chansons, tensions et problèmes de livraison, les fausses notes vont être dures à éviter. Le film dure 1h35, la presse s'est pas déchaînée sur le film, ils y sont pas allés en grand nombre, c'est Le Parisien. Tous les acteurs participent à la réussite de cette belle entreprise qui prouve que rien ne vaut un beau refrain pour combattre la grisaille, résister et se relancer. Cécile Murry dans Télérama, dommage que cette petite entreprise entre guillemets de comédie populaire à l'anglaise, on pense de loin au héros de The Full Monty pour la reconversion improbable, manque de rythme et surtout d'humour. Une réplique sur deux tombe à plat qui aurait pu transformer la chansonnette en tube de l'automne. Stéphane Joby, le journal du dimanche, débrouillardise, bienveillance et un brin de romance sont au programme de ce film consensuel. Voilà, ça s'appelle « Si on chantait ». C'est proposé au Pâté Quinconce, au Méga CGR, et je vais vérifier tout à l'heure, peut-être au Colisée. C'est ce qu'on appelle un feel-good movie classique, sympathique, mais prévisible de bout en bout. Le film se présente sous la forme d'une comédie sociale à l'anglaise. Oui, on peut penser à des films comme « The Full Monty » ou d'autres. Après 2 ans de galère diverses et variées suite à la fermeture de leur entreprise, 4 amis de l'ancienne chorale de l'usine décident de monter, sur l'idée de l'un d'entre eux, leur petite start-up, une sorte de Uber Eats ou Deliveroo. Mais au lieu de livrer des repas à domicile, il s'agit pour eux de livrer des chansons qu'ils interpréteront à la demande après avoir reçu commande pour diverses circonstances, donc anniversaire, mariage, départ à la retraite, etc., etc. Alors, il y a Franck, celui qui a eu l'idée. Il y a Sophie, dont il est secrètement amoureux depuis l'enfance, depuis le collège, mais qui pour le moment entretient une relation calamiteuse avec un amant goujat. Il y a José, un grand dadé naïf qui vit toujours chez sa maman. Et puis Claude, ancien cadre de l'usine, cadre technique comme il dit, qui a bien du mal à retrouver un emploi à sa mesure. Alors, c'est amusant, hein, on sourit même souvent, notamment avec le choix des chansons adaptées aux circonstances. Mais bon, c'est pour dire que si vous avez vu la bande-annonce, vous en avez quand même vu déjà 4 ou 5 sur peut-être 7 ou 8. Donc vous avez vu la moitié des chansons et les circonstances dans lesquelles elles sont chantées. Mais bon, aucune surprise ne vient de troubler l'ordonnancement du scénario qui fonctionne selon un schéma habituel. Hein. Donc on a les difficultés des débuts, puis le succès inattendu, et puis les embrouilles inévitables entre les protagonistes, et bien entendu la réconciliation et le happy end pour conclure. Hein. Là, c'est hyper classique. Donc le film exalte les valeurs d'amitié, de solidarité, d'entraide. Tout cela ancré dans un terroir, la région de Valenciennes, dont est originaire le réalisateur, et qui a permis aussi à des habitants de faire de la figuration dans le film. C'est un film gentillet, agréable pour passer un moment qui fonctionne grâce à l'enthousiasme mis par ces acteurs à défendre leurs personnages. Et c'est eux-mêmes qui interprètent d'ailleurs les chansons, pas si mal que ça d'ailleurs. Hein. C'est pas un film qui sort vraiment du lot, c'est surtout l'occasion d'entendre quelques bons vieux succès de la variété de ces années 70 à aujourd'hui, donc Si on chantait. Mais on entend aussi Michel Fugain, Attention mesdames et messieurs, et puis d'autres, voilà. Donc c'est agréable à voir, mais enfin, c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, Si on chantait, Pâté Quinconce, Méga CGR et peut-être même Colisée. My Son. My Son, là, c'est sûr, c'est uniquement au Méga CGR. My Son, c'est un film de Christian Carion. C'est même le remake d'un propre film de Christian Carion qui s'appelait Mon Garçon. Ben oui, My Son. Alors, Christian Carion, c'est un réalisateur, scénariste, né en 69. Commence par le court-métrage. Premier long-métrage déjà remarqué, une hirondelle a fait le printemps avec Mathilde Seigné et Michel Serrault. 2005, Joyeux Noël avec Guillaume Canet, Diane Kruger et Danny Boone. 2009, L'affaire Farewell avec Guillaume Canet et Emir Kusturica. 2015, En mai, Fais ce qu'il te plaît avec Olivier Gourmet. Et 2017, donc, Mon Garçon avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent. Et donc, ce film My Son est le remake. Le remake, on va y venir dans un instant, presque plan pour plan. Alors, My Son, 1h34. Je répète, un film qu'on peut voir uniquement en Méga CGR. Edmond Murray, divorcé, s'est éloigné de son ex-femme et de son fils de 7 ans pour poursuivre une carrière internationale. Lorsque le garçon disparaît, Murray revient précipitamment dans les Highlands. Rapidement, il devient clair que l'enfant a été kidnappé. Les parents cèdent d'abord au désespoir, mais Murray va très vite se montrer prêt à tout pour retrouver son fils. Il se lance dans une traque qui l'obligera à aller au bout de lui-même et à remettre en cause toutes ses convictions. Caroline Vier, dans 20 minutes, My Son, bénéficie à fond du côté brut de son dispositif. Le suspense va crescendo autour de ce héros, malgré lui, qui se découvre un instinct paternel dans l'adversité. On se laisse prendre au jeu diabolique de Christian Carion en même temps que lui. Alors, dispositif, je vous en donnerai un mot parce que le film a été tourné selon un dispositif un peu particulier. Le Parisien, le résultat est bluffant. On suit en apnée ce père rongé par l'angoisse et la violence dans une brume poisseuse et au milieu de montagnes sublimes. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche, un thriller sec, nerveux et captivant qui prend aux tripes. L'Obs, François Forestier, magnifique paysage embrumé, belle interprétation de James McAvoy, castagne finale réjouissante, on ne s'ennuie pas, mais le sentiment de déjà-vu aplatit tout. Corinne Renaud-Nativelle-Lacroix, d'abord séduisant par sa atmosphère intrigante, Myson prend ensuite le tour d'un film de vengeance dénué d'intérêt. Thomas Borès, là, dans Première, la trame reste la même que dans le film Mon garçon. Un enfant disparaît, son père pas franchement programmé pour une chasse à l'homme, se mue en fin lignée et parasite un réseau pédophile. Et c'est tout. Nul ne sait pour l'heure si la chose va être déclinée ailleurs sur la planète. Voilà, il pourrait y avoir un remake américain, chinois, japonais, que sais-je encore. Marie Sauvion dans Télérama, un film sec, tendu, mais miné par des invraisemblances aberrantes et une violence banalement donnée pour allant de soi. Voilà, My Son, c'est au Méga CGR, uniquement au Méga CGR et uniquement, hélas, en version française. C'est le remake, donc anglais, par Christian Carion lui-même, de son propre film. Alors, on peut d'ailleurs se demander l'intérêt de sa distribution en France, puisqu'il n'y a aucune différence de scénario avec l'original. Voilà. Donc, l'action se situe cette fois en Écosse, c'est la première Carion, ça se passait dans les Alpes. Ça d'ailleurs, ça permet d'observer de magnifiques paysages des Highlands dans la brume. C'est vrai, ça donne envie d'y aller, mais peut-être dans une période où il fait un peu moins froid que dans le film.
Il fait nuit aussi, bon, l'hiver.
Oui,
hein.
Exactement. Le film, c'est donc un pur copier-coller de Mon garçon. Il en a les mêmes qualités et donc les mêmes défauts. Les qualités, ben, c'est une première partie de film au cours de laquelle le père divorcé d'un jeune garçon part à la recherche de son jeune fils, probablement enlevé lors d'un séjour en camp de vacances. En effet, ben, il est obligé de prendre l'enquête à son compte parce que l'enquête a été retirée à la police locale. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon, c'est le cas. Edmond Murray se lance tout seul à la recherche d'indices et soupçonne tout le monde, et soupçonne notamment le compagnon de son ex-femme. Ça donne lieu à la partie la plus intéressante du film. Hélas, comme dans l'original, la dernière demi-heure de la traque traîne en longueur et surtout, elle est pleine d'invraisemblances. Voilà. Donc, en fait, comme dans le film avec Guillaume Canet, puisque dans la version française c'est Guillaume Canet, l'intérêt véritable du film, c'est pour l'acteur James McAvoy plus que pour le spectateur. On nous dit que le dispositif est le suivant. L'acteur n'était pas au courant de l'évolution de son personnage, puisque le film a été tourné dans la continuité et qu'il recevait le script au jour le jour. Voilà, c'est un dispositif. On le conçoit fort intéressant pour l'acteur, mais qui n'apporte pas grand-chose au spectateur, puisque lui n'est pas vraiment concerné. Il voit un film, et puis il ne sait pas forcément comment il a été fabriqué. Donc un film à suspense, à forte tension pendant une heure, puis qui devient un film de pure vengeance, sans envergure particulière. Alors, à voir éventuellement si on n'a pas vu Mon garçon, sinon ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Voilà, ça s'appelle My Son. C'est uniquement au cinéma Méga CGR. Allez, petite pause musicale. Dans Many Saints of Newark, dont on va parler tout de suite. Après, eh bien, il y a Neil Diamond. Et un titre de Neil Diamond, c'est I Am, I Said. Ceux qui ont un certain âge connaissent forcément Neil Diamond. Et il avait été notamment le compositeur de la musique d'un film fort célèbre, Jonathan Livingston Le Goéland, mais également d'autres titres, bien entendu. Et notamment d'un titre qui a été repris ces temps-ci, notamment à cause de l'Euro de football, où les Anglais se sont mis à chanter Sweet Caroline, un titre de Neil Diamond, qui est devenu une sorte de hymne dans les stades de football anglais. Voilà, bon, Neil Diamond, I Am I Said, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
LA is fine, the sun shines most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know, keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA is fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. Leaving me lonely still,
Did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am, I said, to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost and I can't even say why. I am, I said,
I Am, I Said, Neil Diamond, un titre que l'on entend dans Many Saints of Newark, compartiment 6, maintenant compartiment numéro 6, mais précisément. Le film est un film qu'on peut voir au cinéaste, 2 séances par jour, c'est un film réalisé par Juho Kuusmanen, réalisateur, scénariste, dialoguiste finlandais qui a fait des courts-métrages et en 2016 un premier long-métrage, Oli Maki. Durée du film 1h47. Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer Arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d'improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose. Emmanuel Spalacenta dans Cinématiseur, L'air de rien, un très grand film. Louis Guichard Télérama, au fil du voyage dans cette Russie enneigée des années 90, qui dégèle lentement et où il n'y a que les messages manuscrits et les téléphones à cadrans pour rester en contact, ou ne pas se perdre à jamais, un très beau film s'invente. Mathieu Mâcherait le monde, le deuxième long métrage du Finlandais Kuusmanen, grand prix au Festival de Cannes, séduit par sa simplicité et sa gracieuse justesse. Il est vu Olivier de Bruyne dans Les Échos, le récit d'une histoire d'amour aussi insolite qu'émouvante, qui évite à chaque instant les pièges du psychologisme et du sentimentalisme. Gilles Kerdreux dans West France, c'est austère, mais l'ambiance polaire. Deux très bons acteurs, un regard sur les différences de classe donne à ce film un charme particulier. Gaël Golen en première, ode à la beauté du monde et à l'envie d'ailleurs. Ce joli film bénéficie aussi de deux acteurs fantastiques qui donnent à ce conte vaporeux une densité romanesque très séduisante. François Forestier dans L'Obs, petit film réconfortant, douceur bienvenue dans un monde de brutes. Barbara Théâtre de Journal du Dimanche, un road movie dénué de péripéties vraiment marquantes, mais riche des promesses que recèle l'ordinaire, interprété par deux formidables acteurs. 1h47 pour compartiment numéro 6, film proposé par les cinéastes. Alors, comme il existe des road movies, voici un train movie.
Voilà. Ah, je dirais LOM. Oui. On va le voir tout de suite.
Laura, jeune finlandaise, étudiante en archéologie à Moscou, décide de se rendre en train à Mourmansk, admirer de célèbres pétroglyphes. Si vous ne savez pas ce que sont des pétroglyphes, ben vous allez voir le film et vous saurez ce que c'est des pétroglyphes. Sinon, c'est fait un petit peu de grec, mais glyphe, c'est écriture et pétro, c'est la pierre. Voilà, pour cela, elle prend le train et elle y fait une série de rencontres, notamment, et surtout d'ailleurs, celle de Vadim. Vadim, un ouvrier dans un combinat industriel avec qui elle doit partager son compartiment. Elle n'a pas le choix, c'est comme ça. Alors les débuts entre eux sont assez chaotiques. Hein. Il est bourré, il est grossier, mais petit à petit, ces deux êtres qui n'ont en apparence rien en commun vont se rapprocher, et plus, puisqu'il y a affinité d'ailleurs. Alors, c'est le genre de film qui, pour moi, n'a aucun intérêt. Je vous dis franchement, tant c'est banal, mais au moins, on comprend tout. Hein. C'est pas comme La jeune fille, l'araignée, que j'avais descendu il y a deux semaines de cela, où j'avais rien compris. Là, au moins, on comprend, c'est tout à fait, c'est même limpide. Alors, moi, je suis absolument incapable de m'extasier, comme le font les critiques, et comme va le faire d'ailleurs Pierre dans un instant, face à ce type de film, où il se passe quasiment rien, quoi. Hein. Il se passe quasiment rien, si ce n'est de micro-anecdotes, et où le seul enjeu, eh ben, c'est de dépeindre les états d'âme de jeunes gens. Tant qu'à faire, je préfère les jeunes gens d'Olympiade, hein, si on compare avec le film Jacques Audiard. Dans Olympiade, il se passe quand même quelques trucs. Là, bon, hein, rien ou si peu. Bon, rien ou si peu, bon, c'est comme ça. Hein. Alors, l'esprit vagabonde et on constate que Désirless et son stup Voyage ont fait un tabac hors de nos frontières, puisqu'il y a 15 jours, on entendait ça à satiété dans le film La jeune fille l'araignée. On l'entend à nouveau dans Compartiment. Alors, La jeune fille l'araignée, c'est un film allemand. Compartiment 6, c'est un film, on va dire, finlando-russe.
Oui, finlandais, oui.
Et puis, on va encore entendre, j'ai vu ça dans la bande-annonce du film Emmanuel Berco, Désirless, Voyage. Elle doit toucher des royalties impensables, autant que Patrick Hernandez pour Born to be Alive. Ça doit être formidable pour elle, la vie. Hein. Voilà, donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais que Pierre va rehausser la critique et va dire du bien du film.
Justement, Voyage, cette chanson de Désirless des années 80 revient sans cesse, d'une manière récurrente, y compris dans le générique de fin, et là, tout au long de ce Railway Movie. Oui, j'ai inventé ce terme en référence aux Road Movies,
ben oui.
Car c'est en train que nous invite au voyage ce film, un voyage qui nous emmène de Moscou à Mourmansk, et au cours duquel se noue une romance entre une Finlandaise, Laura, et une Russe à tendance très alcoolique. Pour cette raison, ce dernier...
Un Russe,
oui.
T'as dit une Russe, il me semble.
Ah non, non, j'ai dit un Russe à tendance très alcoolique.
Oui.
Pour cette raison, ce dernier n'inspire pas la jeune femme qui va pourtant, au fil du temps, tomber amoureuse. Mais cet amour va-t-il perdurer après que le couple soit arrivé à destination? Point d'interrogation, donc je ne vais pas vous le dévoiler.
Évidemment.
Ce sera à vous de voir. J'ai aimé ce film, notamment pour l'atmosphère qui se dégage, comme souvent dans les films scandinaves. Ce film a obtenu d'ailleurs le Grand Prix du Festival de Cannes 2021, on l'a dit.
Mmh.
Et puis dernière chose, pétroglyphe, alors je ne savais pas moi ce que c'était. Et j'ai cherché donc ces gravures sur pierre.
Voilà, exactement. Bon, donc Pierre a apprécié davantage que moi.
Oui, j'ai aimé.
Oui. Voilà. Many Saints of Newark, une histoire des Sopranos, 2h03 pour ce film d'Alan Taylor. Alan Taylor, c'est un réalisateur, scénariste, producteur qui a commencé par les courts-métrages, puis ensuite des épisodes de séries télé aussi variés et célèbres que Sex and the City, Homicide, Oz, The West Wing, et puis Six Feet Under, Les Sopranos, vous voyez, c'est un habitué Lost, Mad Men, Games of Thrones, il a... fait des séries, toutes les séries possibles et imaginables, Alan Taylor, des épisodes de ces séries. Mais il a aussi quand même à son actif quelques longs-métrages. En 1995, Les Amateurs, avec Sam Coppola et Vincent Gallo. 2013, Thor, Le Monde des Ténèbres. Eh oui, Thor, Marvel encore, Le Monde des Ténèbres, Chris Hemsworth et Natalie Portman. Et 2015, Terminator Genisys, avec évidemment Arnold Schwarzenegger dans un Terminator, c'est... obligé. Alors, de quoi est-il question dans ce Many Saints of Newark, une histoire des Sopranos? Avant d'être une légende du crime, Tony Soprano a fait ses gammes auprès de son oncle Dicky Moltisanti. Dans un contexte explosif de guerre des gangs, cet intraitable parrain a ouvert les portes de la mafia à son neveu. Emmanuel Spalacenta, cinématiseur, c'est un plaisir de fiction, un plaisir de fan avant tout, et surtout un éclatant film de gangster, un vrai. Alors pour ce qui est d'un plaisir de fan, ça je le reconnais parce que moi je n'ai pas vu les Sopranos, donc voilà. Le journal du dimanche, s'il ne renouvelle pas le genre du film Mafia, Many Saints of Newark est une éclatante réussite pour ce qui est d'étendre l'univers de l'extraordinaire série Les Sopranos, 14 ans après sa conclusion. West France, un film splendide où Michael Gandolfini reprend avec superbe le rôle mythique créé par son père. Écran large, Arnold Petit, Many Saints of Newark, comblera les fans des Sopranos avec les personnages de la série et en reprenant certains éléments qui ont fait sa réussite dans un long métrage qui s'apparente à une extension dispensable. Les autres, en revanche, devront se contenter d'un film de gangster décousu et assez quelconque, mais plutôt efficace. Je rejoins parfaitement Arnold Petit. Muriel Joudet, Le Monde, le préquel de la série, ne parvient pas à se hisser à la hauteur du chef-d'œuvre télévisuel. Théo Ribeton, Les Inrecuptibles, on navigue en eau trouble, quelque part entre un ersatz de The Irishman et le préquel de La Vérité si je mens. Camille Nevers, Libération, Many Saints of Newark est triste et raté, triste parce que raté sur toute la ligne. Le film est proposé uniquement au Méga CGR, uniquement en VF. Et oui, Alors peut-être, sans doute même, faut-il connaître la série Les Sopranos et en avoir vu toutes les saisons, et puis également voir le film en VO pour apprécier le film à sa juste valeur. Et ce n'est doublement pas mon cas. Je connaissais que le thème général, moi, de la série, et je l'ai vu dans une VF qui est vraiment très médiocre. Donc, difficile d'exprimer un vrai jugement. Alors, reste que quand on voit le film et qu'on ne connaît pas la série Les Sopranos, reste un film de mafia ordinaire, qu'on en a beaucoup vu, mais là, en la matière, Scorsese a placé la barre quand même très très haut, Coppola aussi, donc... Bon, la comparaison n'est pas à l'avantage de Many Saints of Newark. On est donc dans les années 60-70, à une époque où le grand-père, le père et les oncles du futur Tony Soprano règnent en maître dans le racket et différents trafics dans le New Jersey. On est dans le contexte des émeutes urbaines noires de l'époque. On assiste donc à une série de règlements de comptes entre branches mafieuses, membres de la même famille et gangs afro-américains qui se partagent ce territoire en matière criminelle. D'où, ben, comme dans tous les films de mafia qui se respectent, exécution multiples et variées des adversaires, mais pas que, hein. Mais pas que. Alors le jeune Tony, ben, qui vit dans ce milieu sans forcément d'ailleurs se destiner à prendre la succession dans les affaires familiales, puisque son rêve, c'est de devenir un joueur de la NFL, la Ligue de football professionnel américain, pas le soccer, hein, le football américain, et ben, il va devoir pourtant, malgré tout, assumer l'héritage familial. Voilà, donc on regarde cela sans déplaisir, mais sans enthousiasme non plus, tant on a quand même une impression déjà vue en matière de film de mafia. Mais je répète, hein, tout cela fait sans doute sens si on a vu la série, qu'on en connaît les ficelles, qu'on en connaît bien les personnages. Là, tel quel, eh bien, on est dans le train-train du film de gangster, avec famille bien dysfonctionnelle, rongée par la violence et l'appétit du gain. Voilà, donc j'hésite à vous recommander le film. Moi, je l'ai vu à 13h30, tout seul dans la salle.
Voilà.
Oui, donc on ne peut pas dire que ce soit un franc succès pour ce film, mais bon, en plus, il n'est pas en VO, et puis c'est pas un film pour Méga CGR, c'est plutôt un film pour Centreville, à la limite. Many Saints of Newark, voilà. Eh bien, avant de vous annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine, un petit titre que l'on entend dans les Olympiades, ça s'appelle Croisette Ballade. Et Croisette Ballade, c'est interprété par Frédéric Auger et Florian Gazan. Voilà, sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Eh bien, c'était Croisette Ballade, un titre que l'on entend dans le film Les Olympiades. Alors, qu'avons-nous la semaine prochaine ? On commence par les avant-premières, et il y en a lundi 8 novembre, eh bien, si vous êtes un fan des Baudins, ils viennent. Ils viennent en personne. Mmh. Les Baudins en Thaïlande viennent présenter leur film. Alors, au Pathé Quinconce, d'abord, je crois que c'est à 19h45, au Méga Cigère, 20h30. Attention, Méga Cigère, il y a déjà une salle qui est pleine. Je pense qu'ils vont en ouvrir une deuxième. La grande salle est pleine. C'était pas le cas encore hier au Pathé Quinconce. Voilà. Par contre, dans un autre genre, eh bien, lundi, au cinéaste, il y a l'avant-première du film Les Magnétiques, en présence là aussi du réalisateur. Et puis ça sera l'occasion, parce que c'est les 30 ans de Radio Alpa, 40 ans. De Radio Alpa, de voir des animateurs de
un
Radio
débat,
Alpa.
Un débat, oui, à 18h30.
Exactement, dans le hall ou dans le salle, je ne sais pas exactement.
Enfin, bon, non, dans le hall des cinéastes.
Et donc, il y aura rencontre avec le réalisateur. C'est pas une avant-première, mais petit rappel, il y a mardi 9, Josep, un dessin animé que tu avais bien apprécié, enfin, une animation que tu avais beaucoup apprécié.
Ah oui.
Et c'est dans le cadre d'une soirée hispanique du festival Changer d'air. Et donc, les cinéastes reprennent pour une séance ce fameux Josep, on doit dire, le mardi 9. Sinon, eh bien, pour les avant-premières, il y a aussi le Colisée qui vous propose Cry Macho de Clint Eastwood. En fait, c'est une soirée Clint Eastwood. Cry Macho étant le deuxième film de la soirée, le premier, je ne me rappelle plus exactement lequel c'est. Et ça sera même en version originale, oui, rendez-vous compte. Alors, la semaine prochaine, eh bien, donc, sort Cry Macho de Clint Eastwood, sort Aline. Aline, c'est forcément... le film de Valérie Lemercier, et donc forcément vous aurez du Céline Dion la semaine prochaine, et oui, ça va saigner dans les oreilles des programmateurs de Radio Alpa, mais c'est l'actualité qui le veut. Il y aura également dans les films à l'affiche la semaine prochaine Haute Couture avec Nathalie Baye et Pascal Arbillot. Et puis les cinéastes proposent au moins trois nouveautés: Une vie démente, Tre Piani de Nanni Moretti, qui avait été, je crois, présenté au Festival de Cannes, et A Good Man de Marie Castille, mention char. Voilà, donc je rappelle les avant-premières le lundi 8, alors au cinéaste Les Magnétiques, un film avec le réalisateur qui viendra en parler après la séance. Et puis Les Baudins en Thaïlande, proposé en présence des Baudins à 19h45 au Pathé et 20h30, je crois, au Méga CGR. Voilà, et puis Cry Macho, 21h le mardi au Colisée. Cette semaine, je pense que Pierre vous recommande les Olympiades.
Ah, j'ai adoré les Olympiades, mais enfin, si vous n'aimez pas trop le sexe, allez voir Compartiment, c'est beaucoup plus platonique.
Oui, absolument, et moi je vous recommande absolument d'aller voir Albatros, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, les autres, un peu moins. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, eh bien, je vais vous souhaiter une excellente semaine cinématographique. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
Au revoir.
En compagnie de Céline Dion. Hein, pas que, mais
ah oui.
Céline Dion. C'est
ah, bah, je vais le voir, oui.
Je n'ai pas encore choisi le titre que je vous proposerai de Céline Dion. Il n'y a pas que du Céline Dion, hein, dans le film. Oui. Notamment, il y a la chanson de Charlebois, Ordinaire, qui commence le film. Et il y a la version de Céline Dion à la fin. Mais c'est des chansons qui sont très longues, qui font plus de 5 minutes. Même si j'adore Charlebois et Ordinaire, je ne suis pas sûr que j'aurai la place pour la passer. Quoi qu'il n'y a pas beaucoup de films la semaine prochaine, on verra. Allez, hop, c'est parti, à la semaine prochaine.